Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mélèze tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Pour ce 10e épisode, notre invité allonge l'épisode et fait grandir la série. Celui-ci sera donc en deux parties. Cette semaine, nous rencontrons un curieux de l'humain dans le temps et l'espace. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ?
Damien Devine, je suis géographe et anthropologue de la nature. Je travaille sur la relation à l'autre, humain comme non-humain, et comment cette relation peut inviter des nouveaux projets de territoire, des nouvelles manières d'habiter la Terre. Et je travaille, on va dire, avec trois polarités de regard, la France, l'Afrique de l'Ouest et le Japon. Pourquoi la géographie? J'ai commencé mes études, qui m'intéressaient, c'était la compréhension des grands écosystèmes et la protection des grandes espèces animales et végétales. Et j'ai réalisé un rêve d'enfant, puisqu'en licence 3, je suis parti travailler 8 mois dans une équipe de rangers en Australie sur la protection des populations de koalas. Et là-bas, pour protéger le koala, on les séparait des activités humaines. On les mettait à 300, 400 km des espaces habités, partant du principe que c'est loin de nous que les koalas allaient le plus s'émanciper. Or, avec du recul, on observait que cette séparation ne fonctionnait pas d'un point de vue écologique à proprement dit. Dans ces espaces protégés, on voyait certes au début une embellie des populations de koalas, mais très vite, les populations finissaient par stagner, puis par diminuer. Tout simplement parce que les koalas sont des animaux très territoriaux. Il arrive à un moment où ils font de la concurrence pour l'espace, pour la sexualité, pour la nourriture avec les autres espèces de marsupiaux, etc. Et puis cette séparation soulevait des questions philosophiques, anthropologiques et éthiques. Les koalas avaient des intérêts à vivre en zone périurbaine. Là où je vivais en Australie, on pouvait les observer dans les jardins. Et ils avaient bien sûr des inconvénients à être là. L'inconvénient, c'était lié souvent à nos propres activités. Accidents de voiture, attaques de chiens domestiques, etc. Mais pour soigner, au fond, ces inconvénients, la seule solution politique, scientifique, qui était mise en avant, c'était de déplacer les koalas eux-mêmes. Ce qui me paraissait être une forme d'hypocrisie verbale et spatiale. Si on voulait protéger les koalas, pourquoi ne pas les protéger là où ils sont? Et puis, dernière limite, c'est que le koala est présent de partout en Australie, dans les imaginaires, dans les BD pour enfants, dans les logos d'équipes de foot. Et pourtant, la coexistence avec le koala est refusée. Et je découvrirai plus tard, mais ce refus de la coexistence entre humains et koala cachait un autre refus, celui de la coexistence entre populations occidentales et populations aborigènes. L'un et l'autre prennent leur source, au fond, dans une même incapacité à rencontrer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, par une même incapacité à comprendre l'altérité. Fait penser à cette phrase de Claude Lévi-Strauss qui est très belle et je trouve qu'elle est très contemporaine. Il disait que séparer l'homme de la nature revient nécessairement à séparer un type d'homme d'autres types d'hommes. Et du coup, en rentrant en France, j'abandonne tous mes rêves de grands animaux et je me dis qu'en fait, la clé, c'est de rassembler nature et culture et de réfléchir aux règles de la coexistence. Et c'est comme ça que je suis parti vers les chemins de l'anthropologie d'abord, puis ensuite de la géographie. Au fond, quand on s'intéresse à la relation, il arrive toujours à un moment où, au lieu de la théoriser, on a envie de la faire atterrir dans les territoires. Et les territoires, c'est un espace incroyable pour penser cette relation à l'autre, puisque c'est l'échelle d'expression du vivant, les territoires. C'est à cette échelle que l'oiseau fait son nid, que le castor construit son barrage, et que nous, humains, on construit quand même 70 à 90% de nos sociabilités. C'est là où on fait grandir nos enfants, c'est là où on enterre nos proches également. Je peux saisir comme ça les deux extrémités de la vie, à l'échelle de l'espace vécu. Au même titre que hier, les territoires, c'est là où a été axée la séparation, Je pars de l'hypothèse dans mes travaux que c'est à cette échelle que la réconciliation peut également se faire. Et je travaille du coup sur tous ces travaux à l'Université catholique de l'Ouest basée à Angers.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture ?
Le vivant, c'est toutes les couleurs de la terre, au fond. Et c'est un élément super important lorsqu'on s'intéresse à l'engagement. On a des liens d'usage et d'affection qui nous relient au territoire, qui nous relient à ces paysages qu'on a tous au fond du cœur. Néanmoins, on vit dans une société où la diversité qui approche de chez nous, on n'arrive plus à la voir. On n'arrive plus à la voir parce que nos modèles éducatifs, nos manières d'aménager le territoire, nos manières de faire récit de société ont toujours tendance à la mettre en invisibilité au mieux, à complètement la détruire au pire. Deux exemples par exemple. Dans la manière dont on aménage le territoire, quand je vois des nationales qui coupent des villages dans ce qui était avant le cœur de village, on voit à quel point on a tué la diversité et on a tué le lien. Autre exemple, dans les modèles éducatifs, Vive en Auvergne par exemple, qui vit littéralement à l'ombre des volcans. Pourtant, quelle Auvergnate aujourd'hui a des connaissances en vulcanologie très peu. En fait, dans nos manières de nous définir et dans nos manières d'orienter la flèche du temps, la flèche du progrès, on n'inclut pas en fait ce qu'il y a tout autour de chez nous. On a perdu le lien au milieu. Et retrouver ce lien, ça remet de la couleur dans nos vies et je crois que ça permet le mouvement. On vit également dans un contexte contemporain où on a tendance à confondre radicalité et vindicte. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup également. C'est-à-dire ce qui caractérise l'engagement aujourd'hui, c'est de retweeter telle ou telle femme ou homme politique qu'on n'aime pas trop, de manière toujours trop simple, de manière toujours parfois insultante. Ça marche bien sur les réseaux sociaux et du coup ça alimente un petit peu la machine. Ça marche bien parce que la vindicte parle au cœur. Mais elle a tendance à teinter le cœur de noir et blanc, là où la poésie, le vivant, parle également au cœur, mais a tendance à teindre le cœur de couleur. Et j'ai dans l'hypothèse que la couleur a toujours été plus en mouvement que le noir et blanc. Peut-être pas sur Twitter, mais dans les territoires, dans la vraie vie, j'en suis sûr. Une couleur, il ne faut pas choisir, justement. Ça aurait tendance à homogénéiser la nature. Ce qui fait la nature, c'est sa diversité. Si c'était une texture des tissus de montagne, il montre aussi tous ces liens qui relient humains et non-humains, visibles et invisibles, dans une culture donnée, puisque les pagnes mettent en valeur le prestige d'un humain, sa profession, sa foi. Une odeur, j'ai plutôt grandi, je vis toujours dans les terres de jardins et de forêts. Et j'aime beaucoup l'odeur du maquis au printemps, qui est une odeur de toutes ces plantes qui se métissent dans l'air et qui donne une odeur particulière lorsqu'elle est soufflée par le vent. Un goût, c'est l'odeur des marrons grillés qu'on sent parfois à la sortie du métro ou plus généralement dans les foyers qui ont la chance d'avoir une cheminée et d'aller chercher des châtaignes à l'automne. C'est une odeur qui réinvite la forêt dans nos espaces intimes. Et autant que le goût du marron grillé. Et pourquoi c'est important ? Parce que justement, toute l'histoire de notre lien au vivant, en tout cas dans les sociétés occidentales, a eu tendance à séparer nature et culture. Aujourd'hui, cette séparation nous revient comme un boomerang au visage. Et quel est l'avatar de cette séparation ? C'est nos endroits les plus intimes, à commencer par notre propre foyer. Faire griller des châtaignes et les manger au feu de cheminée, c'est réinviter le vivant, réinviter la forêt dans ces endroits les plus intimes que sont nos propres murs. Le son, c'est des chants souvent traditionnels qui viennent de différentes sociétés. Donc il y a des chants scandinaves, il y a des sons africains. Et c'est une musique très vibrante où on entend un peu les tam-tams vibrer ou les chants se mélanger dans l'atmosphère. Je trouve que c'est des sons qui sont assez fidèles à la diversité du vivant.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ou tes recherches ?
Mes recherches, dans un premier temps, cherchent à trouver une nouvelle manière de parler des territoires. Une manière de parler des territoires qui rend davantage justice à la diversité qu'ils hébergent, humaine comme non humaine. On souffre, dans nos imaginaires, d'une manière de nommer les territoires qui est une violence sans exemple. Le terme de France périphérique, par exemple, est très marginalisant. Un territoire, comme l'exprimais tout à l'heure, c'est là où on fait grandir nos enfants, c'est là où on a nos loisirs, c'est là où on se projette dans un futur désiré et désirable. C'est toujours un centre du monde, donc, pour ceux et celles qui vivent dans ces territoires-là. Personne n'est périphérique à sa propre vie. Et même si ce territoire a été blessé au fil du temps, ça reste un repère important. Dès lors, ça demande de trouver de nouvelles manières, effectivement, d'évoquer ces territoires. Je vais vous donner un exemple. Val-de-Reuil, c'est la plus jeune commune de France. La dernière année des villes nouvelles des années 70-80, elle est en Normandie et Val-de-Reuil, on l'imaginait comme ville d'équilibre entre Paris et Rouen. Malheureusement, le rêve n'a pas eu lieu et la ville a eu tendance à stagner autour de 10 000 habitants. Et c'est souvent comme ça qu'elle est évoquée dans le débat public, Val-de-Reuil. C'est-à-dire comme une ville qui s'est écroulée sur le rêve des urbanistes des villes nouvelles des années 70. Mais elle a quand même deux immenses richesses, cette ville. C'est que c'est une ville qui a été créolisée avant l'heure, qui s'est inventée sur un métissage permanent, puisque pour la peupler, cette ville nouvelle, on a fait appel autant aux Normands qui avaient envie de quitter les campagnes qu'à des gens venus d'Europe de l'Est, d'Afrique ou du Maghreb, par exemple. Et puis, c'est une ville qui a été construite sur une dalle, si bien que les nouvelles générations elles-mêmes se définissent comme étant les enfants de la dalle. Donc parler de cette ville, non plus uniquement comme une ville qui a souffert, même si ça fait partie de son histoire, mais également dans une ville qui est gardienne des enfants de la dalle et d'une diversité qui est souhaitable pour tous les autres territoires français, ça change tout dans la manière qu'ont les habitants de s'approprier leur commune et dans la manière dont ils peuvent y construire aussi des opportunités et des projets, quoi. Donc ça, c'est le premier pilier de mon travail, avoir une nouvelle manière de définir les territoires et donc et du coup une nouvelle manière de les projeter dans le futur. Et mon deuxième travail en tant que chercheur, je fais partie d'un courant qui s'appelle la géographie culturelle. Et l'une des grandes hypothèses de la géographie culturelle, c'est de dire que uniformité et précarité sont les deux temps d'un même processus. En uniformisant les territoires, on laisse des êtres vivants, humains comme non humains, sur le bas-côté, sur le carreau. Ça s'observe très bien dans les politiques de développement territorial telles qu'elles ont été portées jusqu'alors. Je vais en citer une qui illustre le tout, c'est la théorie des avantages comparatifs. Ce nom a l'air barbare, mais c'est quelque chose de tout simple, au fond. C'est cette idée de se dire que pour qu'un territoire pèse sur la scène nationale, voire internationale, il va falloir qu'il se spécialise dans une ou plusieurs filières d'excellence. Pour ça, il pourra tirer son épingle du jeu sans faire concurrence à son voisin. C'est une politique qui a déterminé le développement des territoires français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si certains territoires se sont spécialisés dans des filières qui émanaient un petit peu de leur paysage, je pense à l'élevage en Auvergne, d'autres, dans un pays très centralisé comme la France, se sont vus avoir des filières complètement parachutées depuis Paris. C'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, que les chantiers navaux se sont retrouvés à Toulon, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient, etc. Et cette politique aujourd'hui, elle nous revient un peu comme un boomerang au visage, puisque elle laisse apparaître des précarités auxquelles on n'avait pas pensé. Cette époque-là, la première précarité, c'est que, parachutées depuis Paris, ces industries se sont imposées sur des tissus sociaux et économiques qui étaient émancipateurs, émancipatrices pour les personnes qui vivaient dans les territoires. Et je pense que le plus bel exemple, c'est le port de Lorient, effectivement. Le port de Lorient change complètement le visage de l'agriculture bretonne, majoritairement hors sol, de l'élevage hors sol, qui n'a pas plus d'intérêt à être en Bretagne qu'ailleurs, d'un point de vue agronomique, puisque par définition, c'est hors sol. Le seul intérêt de cet élevage hors sol, c'est la proximité avec le port de Lorient. Et cet élevage, très polluant donc, pollue les sols, pollue les rivières, problème des algues vertes sur le littoral breton, toxique autant pour les humains que pour les non-humains. Et puis la deuxième limite de ces avantages comparatifs, c'est que malheureusement, elle n'a pas su prophétiser l'avenir. Dans le sens où au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent par leur spécialisation. Aujourd'hui, se concurrencent à cause de cette même spécialisation. Airbus à Toulouse crée beaucoup plus d'emplois, d'influence, de richesse que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Et puis que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans les filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui, le charbon, le textile, la chaudronnerie, c'est des territoires dans lesquels aujourd'hui il y a de très forts indicateurs de précarité, beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage, etc. Et donc la question qui se pose, c'est comment contourner cette uniformité. Les travaux que je porte avec d'autres, on est plein à travailler dans ce sens-là, c'est que c'est en remettant de la relation dans les territoires qu'on arrivera justement à recréer de la diversité et y recréer des opportunités. Pourquoi ? Parce qu'en anthropologie, 1 plus 1, ça n'a jamais fait 2 quelque part. Ça donne toujours un résultat qui est largement supérieur à la somme des parties. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est un humain plus un chien, ça ne fait pas 2. Un lien rajoute un 3, un lien rajoute un 4. Ça crée du temps, ça crée de l'espace. Bref, ça crée un monde de relations qui est propre aux deux individus. Imaginez dès lors ce qu'il est possible de faire avec une multitude d'humains d'un côté et une multitude de non-humains de l'autre. À l'échelle des territoires, c'est mille et un chemins de promesses, je pense, qui se dégagent. Ça, ça demande de libérer un peu nos humains. Got to be good looking, 'cause he's so hard to see. Come together right now. Over me. Il y a une philosophe qui s'appelle Gabriel Alpern qui travaille beaucoup sur ça, c'est que on a tendance à toujours mettre les individus dans des catégories et que ces catégories sont elles-mêmes uniformisantes. Là où on vit dans une société ou dans un moment de l'histoire de l'humanité où les identités sont extrêmement plurielles. Alors ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus affirmé aujourd'hui du fait de la mondialisation, du fait de tout ça. Et du coup, la plus belle chose qu'on peut faire à des porteurs de projets, c'est juste d'écouter leurs projets et de ne pas essayer de les mettre dans des cases. Puisque quand on les met dans des cases, on uniformise leurs projets et on limite finalement toutes les opportunités que peuvent apporter ce projet à un territoire.
Voici que cette première partie aux côtés de notre amoureux du vivant et de la géographie prend fin. La semaine prochaine, nous continuons notre voyage pour terminer ce 10e épisode spécial. Cuisiner aux petits oignons. Tremble être noyé.